stuk, een stuk. Ik doe mijn zuur pian. Van Echo. Encore une fois.
21h sur France Culture, vous passez par Continent Musique ce soir en visite dans les archives de la discothèque de Radio France et en compagnie d'un auteur, compositeur, interprète et photographe, Vincent Delerme. Alors qu'il publie cette année à présent son 6e album studio et que paraissent 3 livres de photographie aux éditions Actes Sud, visite dans le décor des archives avec Vincent Delerme. Alors Continent Vinyle, clique.
Le corner shop, le drugstore, de balles des cœurs bas son corps, des garçons en haut des marches, et les filles à marbre large. Toi tu regardes en passant, et tout est pareil qu'avant. Tu la connais cette histoire, tu reconnais les trottoirs, la vodka et le rubis, dérobés dans un taxi. En traversant tu revois vos silhouettes à cet endroit.
Dans le décor avec vous, Vincent Delerme, on a pensé à commencer cette visite par votre chanson Dans le décor parce que elle dit beaucoup de votre manière à la fois intime, collective. Je pense notamment au tutoiement, au rapport à la photo dans un sac, hein, une question dans la chanson, le fait de traîner encore avec des souvenirs. Et il est plein de souvenirs, le décor dans lequel on se trouve, les archives de Radio France, les archives où sont rangés les livres, les disques vinyles, mais aussi les partitions d'orchestre. En fait, ce lieu, il vous est presque familier puisque vous avez fait un passage à la radio en tant que stagiaire, Vincent Delerme.
Ouais, j'avais à chercher quelquefois des disques. Mais alors, c'était à Radio France même à l'époque. Mais je me souviens de ça, ouais, de ce truc, d'avoir l'impression aussi de pas cerner suffisamment les choses, que c'est trop grand et qu'il faudrait avoir plein de gens qui vous pointent les disques, mais de piocher comme ça au hasard. Et c'est un peu vertigineux comme lieu. Mais c'est sûr que ça me touche l'idée de... C'est beaucoup de choses qui appartiennent au passé, en même temps, voilà, des gens qui travaillent au présent, à ça, au service de la documentation, et dont c'est la vie au quotidien. Enfin, c'est le mélange des deux et fait un effet, quoi.
Qu'est-ce que vous venez trouver dans un endroit comme celui-ci, Vincent Delerme ? Vous nous avez envoyé une liste avec des bandes originales de films, des archives de télévision, des sons, des interviews, beaucoup de voix, en fait. Qu'est-ce que vous venez trouver dans un lieu comme celui-ci ? On est entouré, voilà, il y a des allées de disques, c'est très grand.
Ouais, franchement, je sais que moi je passe beaucoup de temps dans des trucs de vide-grenier, des trucs comme ça, et je cherche surtout des trucs dont je connaissais pas l'existence avant. Là, en l'occurrence, je suis aussi, je vous ai donné une liste aussi parce que ça nous aidait à aiguiller les choses et puis que ça me plaît. Mais comme dans l'absolu, j'adore en tout cas aussi ça. Se balader, tirer sur les pochettes, dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette fille qui a disparu. C'est quand même aussi un peu spécial quand on fait de la chanson parce que ça rend modeste, parce que quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait un disque ou plusieurs et qui sont plus là du tout. Certains dont on se souvient vaguement du nom, et d'autres aussi dont on n'a jamais eu connaissance. Donc c'est une expérience paranormale pour un chanteur.
Bah, se balader, on y va alors.
Ah bah allons-y.
On se promène dans les rayons. Vous étiez parti quand vous êtes arrivé. Vous êtes allé tout de suite dans le fond là, du côté d'un rayonnage. Il faut préciser que ce sont des travées qu'on peut faire rouler. Hein. C'est un peu comme à la BNF. Vers quel label est-ce que vous voulez qu'on s'oriente ? C'est très généraliste, mais la collection est très importante. Il y a celle de Barclay, ouais. Qui est de ce côté-là, okay. Ou le Champ du Monde, qui sont assez accessibles là sur le côté.
Vous savez, il n'y a pas Sarava par hasard. Ah, j'aurais dû vous dire.
Sarava, on va y aller tout de suite.
Ah, Sarava.
Toi et moi,
c'est super. Et Sarava, c'était vraiment aussi en plus le, Ouais, c'est le label modèle. La fascination que j'avais pour le label Tôt ou tard où je suis, c'était parce que j'avais cette mythologie de. Après, c'est très, très particulier parce que Pierre Barou, donc, fonde Sarava un peu, je crois, avec, avec l'argent qu'il a gagné en faisant la BO d'un homme et une femme. Et après, il y a ce studio aux Abesques dont tout le monde a les clés, où tous les musiciens jouent ensemble. Si Higelin a envie d'aller enregistrer, il y va. Enfin, et c'est une époque comme ça où il y a un peu cette image d'Épinal, mais qui était vraie. Donc, des musiciens jouant entre eux sur les disques les uns des autres. Et donc, il y a une sorte de grande mythologie, de liberté. Et puis, en plus, c'est des chanteurs, que ce soit Fontaine, Higelin, David McNeil, qui sont Jean-Roger Cossimon aussi, qui a fait des belles choses à la fin de sa vie. Et je sais que Pierre Barou, par exemple, je l'ai connu un peu. Enfin, c'est quelqu'un qui est toujours là, mais je le connaissais un peu à une époque. Et je sais qu'il m'avait dit ça, que Cossimon, ça avait été le dernier grand bonheur de sa vie, de pouvoir faire des disques. Et voilà, chez Sarava.
Eh ben regardez, c'est sur Pierre Barou qu'on tombe en premier.
Le pollen. Alors déjà, le slogan de Sarava était génial, parce qu'en dessous du label, à chaque fois, il y a marqué « Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire ». Donc c'était avant les années Sarko. Barou, c'est spécial, c'est quelqu'un qui fait partie des gens très décomplexants aussi quand on commence à faire la chanson, parce qu'il a une manière de chanter qui n'est pas du tout, je ne sais pas si on pourra écouter un peu, mais une manière de chanter qui est très qui correspond à quelque chose à quoi je crois beaucoup sur la chanson, qui est qu'on entend quelqu'un, quoi, que potentiellement pas. Il y a des chanteurs qui chantent tellement techniquement qu'on n'entend pas forcément le fond de la personnalité, mais chez un type comme Barou, je pense que c'est sa force, c'est quand on l'écoute, on a l'impression qu'on connaît le mec et qu'on voit comment il est, et que s'il continue de vous parler dans sa cuisine après avoir chanté, ça va être exactement la même voix et avec aucun complexe de chanter comme il chante. Et moi, je sais que c'est quelqu'un qui comptait pour moi à ce niveau-là, quand j'ai commencé.
Dans le pollen, par exemple, c'est un album où on le voit. En plus, on pourrait plus faire une pochette comme ça aujourd'hui, puisqu'il fume une cigarette sur la couverture. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez comme chanson sur le pollen ?
Est-ce qu'il y a d'autres albums de Barou ou pas ?
On va regarder.
Parce que c'est pas le disque dont je maîtrise le mieux les chansons. Mais je pense que les uns et les autres, c'est la chanson du film. Et puis la chanson Le Pollen elle-même. Ah oui, Jean Cormier, c'est son grand pote, un de ses grands potes. Pierre Barou, c'est quand même une clique, c'est des amis. Quand il commence à te parler de ses voyages au Brésil et tout, faut que tu aies un petit peu de temps devant toi. Ah oui, Des ronds dans l'eau, ça c'est joli aussi. Que Françoise Hardy a dû chanter. Je ne vais pas dire, vous vérifierez. Mais il a fait souvent. C'est pareil, c'est une traduction brésilienne, hein, je pense.
C'est un morceau que Philippe Catherine aime beaucoup, je crois.
Ah oui? Ouais, il a son versant un peu comme ça, Catherine, sur 8e ciel. Il y a beaucoup de titres qui sont un peu influencés par ça. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que... Alors, attends. Des ronds dans l'eau. Ah oui, c'est pas très... Non, c'est pas très brésilien. Le Sénéchal.
Raymond Sénéchal et Pierre Barou. On l'écoute ?
Ouais, avec plaisir.
Tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes en des eaux moins tranquilles. Tu tailles tes quenottes aux cailloux de la ville. L'ambition a des lois, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte.
Ce qu'on vient d'entendre, tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Ça vous est arrivé aussi, Vincent Delerme?
C'est un fantasme que j'ai rapidement oublié, mais en tout cas, ce qui est souvent chez ces gars-là, dans leur première manière, il y a ça aussi, dans les tout premiers Yves Simon, même les premiers Souchons, il y a ça aussi, c'est que c'est souvent un truc assez classique, comme si, même dans les orchestrations, pas victime de l'époque, mais... quelque chose qui marche avec ce qui se fait à un moment donné. Et après, une sorte c'est comme si j'ai vraiment l'impression que là il commence et que voilà que quelqu'un lui a fait l'arrangement à sa place, alors que dans les disques suivants, notamment dans toute l'époque Sarava, parce que là il est jeune, il est pas encore chez Sarava, il y a ça donne voilà, c'est des gens qui donnent l'impression d'avoir vraiment la main sur l'arrangement et tout ça. Et là je sens même le moment là où ça s'excite, là une sorte de truc un peu décision d'arrangeur quoi, et c'est drôle.
Alors tu cabrioles, tu admires et condamnes, tu mets des auréoles ou bien des bonnets d'âne, tu aimes tes amis, tu les aimes beaucoup, tu ris des ennemis qui te font les yeux doux.
Alors, est-ce qu'on reste, on va rester encore un petit peu dans cette collection du label Sarava, puisqu'il y a beaucoup de choses.
Ça, je ne connais pas. Le nom, je te laisse le prononcer.
Donc c'est René Urtréguer. Ça, c'est un disque de jazz.
Jean-Roger Cossimon. Lord McRashley, dans Fantomas.
Celui-ci est très beau.
Ouais, il est beau, très beau. Bah, après, bon, moi, c'est un... Ouais.
C'est drôle d'avoir des titres aussi différents. De commencer par Il fait soleil.
Ah, c'est une très belle chanson, Il fait soleil.
Et de suivre par Border la cul.
Ouais, c'est vrai. Mais Il fait soleil, c'est une super chanson qui a été reprise par Sylvain Vano il y a une dizaine d'années. Et ça, je veux bien qu'on l'écoute.
Ok.
Super titre.
Cependant, à chaque matin de lumière, je retrouve une âme d'enfant qui se recueille et s'émerveille. Je suis heureux, il fait soleil, et pourtant, dans ce journal que l'on m'apporte, je pourrais lire noir sur blanc les faits divers en lettres mortes, tout ce flot de pleurs et de sang. Roule comme il roulait la veille, je suis heureux, il fait soleil, et pourtant. Je suis libre, je bois, je mange, en prison pleure un innocent. Sur la rive asséchée du Gange, un enfant s'endort doucement. Sous l'œil sec du vautour qui veille, je suis heureux, il fait soleil, et pourtant.
Finalement, souvent, on est attaché, par exemple, aux versions de départ. Il est question de ça quand on doit réorchestrer pour faire une compilation. Enfin, ouais, c'est un truc qui m'a jamais fait de compilation, mais. Et souvent, les gens sont très attachés à l'arrangement de départ et la façon qu'on a de découvrir une chanson compte énormément. En fait, moi, je connais la version de Sylvain Vano et du coup, que je considère presque comme étant la version référence. En fait, là, je me suis dit, ah mince, il me manque un petit truc parce que je me suis habitué à celle que j'ai découvert en premier. C'est vraiment quelque chose, c'est très affectif, en fait, je crois, les chansons.
C'est peut-être encore une marque de Sarava, mais les notes sont très personnelles quand on ouvre le disque. On dirait que c'est manuscrit. Hein. Pierre Barou m'a donné la possibilité. Voilà. Oui. Jean-Roger Cossimon s'adresse directement à l'auditeur.
Je pense que c'était un truc qui était dans la tête. En plus, il travaille qu'avec des gens hyper pros. Les photos, c'est Patrick Ullmann. C'était vraiment un grand portraitiste de cette époque-là qui a fait notamment un bouquin qui s'appelait Tête d'affiche avec beaucoup de très beaux portraits en noir et blanc comme ça, dont on connaît beaucoup d'ailleurs de portraits un peu majeurs de Gainsbourg, de Ferré, tout ça. Mais je pense que Barou avait vraiment en tête de casser les codes quoi, des soirées blanches d'Eddie Barclay. Quoi. C'était vraiment ça l'idée, c'est qu'on peut faire des disques et que ça ressemble à un truc qui se passe chez soi, une discussion entre potes. Et c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans les disques, dans le tempo. On voit que c'est pas... ce qu'on vient d'écouter, c'est pas hyper compétitif en termes de pulse. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est, j'ai l'impression que Barou avait ce truc-là de vouloir intégrer bah, des chansons qui ressemblaient à son rythme de vie. C'est un mec qui est comme ça, qui aime bien profiter, qui aime bien effectivement des choses un peu nonchalantes aussi, brésiliennes. Et d'une façon générale, prendre le temps, je crois qu'il défendait ça pas mal, ouais.
Vous mentionniez Patrick Ullmann, le photographe. Il se trouve que pour certains, qu'il ignorait encore, quoique avec Martine Parr, on s'en doutait déjà, votre goût de la photographie, il est lié à une pratique de la photographie. Et vous publiez chez Actes Sud 3 petits livres qui fonctionnent ensemble, mais les sujets sont différents. Il y a Songwriting, notamment, avec un motif, donc il est beaucoup question de votre rapport à la chanson, aux gens qui écrivent des chansons, avec ce motif à la Pérec, Je me souviens, où vous parlez des souvenirs d'enregistrement, de collaboration que vous avez eu avec Alain Souchon par exemple. Et vous revenez toujours sur cette expression, le fait que songwriting, ça n'est pas d'équivalent en français.
En tout cas, c'est vrai que ça dit vraiment quelque chose, parce que songwriter en plus, ça ne parle que du fait d'écrire une chanson. Mais en gros, il y a l'idée, par voie de conséquence, que le mec qui a écrit tout ça va la chanter. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est bizarre, c'est pas singer. Et puis, d'une façon générale, l'écriture de chansons, c'est un genre à part entière. Des fois, les gens, pour vous faire plaisir, vous disent ah, mais ce que vous faites, c'est comme des poèmes. Et pour moi, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment un mode d'écriture qui est spécial, qui fait que, à mon sens, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'écrivains ou de poètes que j'aime comme parolier de chansons. J'aime bien des textes d'Aragon, par exemple, qui ont été adaptés en chansons, mais parce qu'il a une écriture déjà un peu qui va de ce côté-là. Mais je suis pas, même des écrivains que j'aime bien, je suis pas toujours très preneur de ce qu'ils ont écrit pour la chanson. Et inversement, les chanteurs qui écrivent parfois des très bons textes, Fred est super mauvais écrivain. Donc c'est assez... voilà, c'est une catégorie, et c'est sûr que l'expression son caractère dit au moins ça, quoi. C'est que mon job, c'est ça, d'écrire des chansons. Et puis après, il y a un petit truc d'attitude derrière ça. Peut-être que le mot chanson a une petite connotation qui fait que même s'il y avait l'expression écriveur ou écrivain de chansons, on n'aurait pas envie de l'utiliser pour soi, peut-être.
Alors.
Oh, bah dites donc. Ah, ça vient, c'est joli ça.
Oui, les exemplaires d'archives, ils sont jamais sortis, donc ils sont en très bon état.
Ça a été réédité récemment, et je l'incrabouffe, mais encore que Simon... Ah, plus proche justement de Fantomas. Carole Laure, ça je savais pas du tout qu'elle avait fait des trucs chez Sarava.
Mais en fait, je pense que Carole Laure, ça doit être le lien, ça doit être Lewis Ferré.
Ouais, c'est sûr.
Je pense que c'est ça.
Il a réussi à placer sa petite nana.
Parmi les choses que vous avez demandé...
Du Roubaix, ça, peut-être ? Non.
Ah oui, si, il est annoncé François de Roubaix.
Oui, absolument. Mais t'as vu, il ne met... C'est ça qui a été particulier. Maintenant, les mecs font des concerts. J'ai vu même Vladimir Kosma, il fait le Grand Rex. Il y a une tournée européenne des New Morricone. Des types, c'est un peu... je trouve c'est un peu mérité, quoi, parce que toutes leurs musiques sont hyper connues. Mais pendant des années, là, on en a vraiment l'exemple. C'est une musique de François de Roubaix. Et sur la pochette du disque, il n'y a même pas marqué son nom.
Mais on voit Bourvil avec une feuille de vigne.
Voilà. Donc ça compense. Et on reconnaît bien, évidemment, le style Moki.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Vous avez jamais utilisé... C'est un cymbalum qu'on entend là.
Ouais, je pense. Après, c'est particulier parce que ça, c'est un thème de Roubaix. Et direction musicale et orchestration, Tony Rallo. Je pense que de Roubaix n'a pas fait énormément de musique de film sans les orchestrer lui-même. C'était quand même un peu son truc. Et justement, souvent, c'est ça qui domine chez de Roubaix. C'est comme il fait tous les trucs chez lui, beaucoup rue de Courcelles. Du coup, il empile des choses comme ça par strat. Et puis, il y a des instruments qui ressortent. Et il y a eu des docks comme ça. On le voit un peu créer la musique. Et souvent aussi ramener des bandes qu'il faisait en studio avec des cordes, des gros orchestres qui savaient diriger, écrire pour eux, mais n'avoir aucune peur de couper là-dedans, de prendre juste un truc, de mettre les cordes très bas après dans le mixage. Il y a une sorte de grande liberté comme ça dans la hiérarchie des sons, des choix d'instruments. Et ça, c'était assez... vraiment assez original pour l'époque, parce qu'en général, quand la production a payé plein de cordes, elle a envie de les entendre et ainsi de suite.
C'est intéressant parce que juste après Pierre Barou, vous vous arrêtez sur François de Roubaix et c'est encore une autre façon de faire la musique. François de Roubaix, vous le mentionniez, c'est un des premiers à avoir eu un home studio en fait, où il faisait presque tout chez lui dans son appartement rue de Courcelles. Comment est-ce que vous travaillez, vous, Vincent Delerme ?
Concrètement, nous, bah, moi je suis pas du tout équipé en home studio, j'ai aucun matériel technologique chez moi. J'ai un piano, mais j'ai pas de micro pour moi. Et c'est une idée à laquelle je suis attaché, bah, il se trouve que j'ai des enfants. Et que j'aime pas du tout l'idée qu'ils aient l'impression que, voilà, que c'est une sorte d'activité sérieuse et que, voilà, attention, faut pas faire de bruit, ton père enregistre un truc. Enfin, pour moi, c'est un peu l'angoisse et c'est aussi une manière de garder un côté pas amateur parce que je travaille ça, je vous promets que je travaille sérieusement. Mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui soit pas définitif, quoi, qui soit comme si c'était quand même une chance de continuer à faire des chansons, mais comme si c'était pas un vrai métier ou pas un vrai truc. Et que voilà, tant qu'on peut en faire, tant qu'on peut écrire des spectacles, tant qu'on peut voilà, avoir la chance de bosser là-dedans, bah, ça continue. Mais j'ai l'impression que ce serait catastrophique si j'avais plein de matériel et qu'un jour on me rende mon contrat. Je me dirais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce truc-là, quoi. Alors que là, je peux me dire, bon, bah, je jouerai un peu de piano pour moi. Et d'une façon générale, j'aime bien ça aussi, que toute la part qui me concerne et qui est d'écriture et de mise en place des chansons, elle se fasse d'une manière très très simple, qu'elle tienne la route sans aucun arrangement, sans aucune maquette, et si possible sur un piano pas complètement génial non plus, parce que on est très vite piégé au stade de maquette par le fait d'avoir quelque chose d'un peu abouti déjà, qui peut vous donner l'impression que finalement, voilà, c'est comme d'écrire la nuit par exemple. J'écris jamais le soir ou en ayant bu parce qu'on a l'impression que tout est fantastique, il y a une sorte de vertige, je dis, attends, c'est tellement beau, les 3h du matin, et le piano résonne et tout, et puis à 11h14, ça ressemble plus à rien, quoi. Donc le lendemain, j'essaie toujours d'écrire des chansons de jour.
Votre façon de chanter, Vincent Delerme, a beaucoup changé. Quand on écoute ce dernier album à présent, c'est vraiment singulier de voir que votre façon de chanter, de dire, a vraiment évolué.
C'est vraiment... à chacun des 10, j'ai eu l'impression que ça avait évolué. Je me souviens, quand j'ai fait le deuxième album, je me disais, ah voilà, maintenant ça chante vraiment plus droit que sur le premier. Et puis maintenant, le deuxième album, qui contient les filles de 73, par exemple, me semble effectivement très de la catégorie du début. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Sur le premier album, je me posais pas cette question, effectivement, tellement du chant. Je voyais bien que c'était un peu particulier, ma manière de chanter, mais ça rejoint ce dont on a pas mal parlé déjà, qui était de se dire... Un mec qui chante, c'est une sorte de bloc, c'est d'un seul bloc. Par exemple, j'ai jamais cru que des gens auraient pu, peut-être quand j'ai commencé, aimer davantage ce que je faisais parce que j'aurais mieux chanté. Ça faisait partie d'un personnage, c'était pas quelque chose que je cultivais à l'inverse, mais c'est sûr que c'était un truc sur lequel je faisais peu d'efforts, on va dire ça comme ça. Et puis après, bah, tu fais des concerts aussi, donc le chant devient plus droit. Et puis à partir peut-être du spectacle Memory et de l'album qui a suivi, Les Amants Parallèles, c'était vraiment aussi quelque chose où il fallait se mettre à beaucoup écouter. C'était assez particulier, les orchestrations, parce que c'était que du piano préparé, donc il y avait beaucoup de creux, voilà, il fallait arriver à être dans un chanté-parlé un peu plus, je sais pas, plus professionnel, on va dire. Et voilà. Mais ça s'est fait assez naturellement. Il y a des choses où j'ai pu faire attention, de me dire attention, il faut pas trop cultiver. Par exemple, quand j'ai fait mon troisième album, j'ai fait attention à mettre un peu moins de noms propres parce que je chantais un disque où j'en ai mis énormément et j'avais pas à cœur de me dire de toute façon je suis comme ça et puis je vous emmerde. Enfin, de temps en temps c'est bien aussi quoi d'entendre ce que vous disent un peu les gens quand des gens plutôt bienveillants en plus vous disent franchement ton écriture je pense pas qu'elle tient au fait de mettre tout le temps des joueurs de foot et compagnie. Donc j'avais fait un peu attention, mais sur le chant franchement non.
Alors suite. Ça, c'est toujours en partant des pistes que vous nous avez envoyées, cette sélection.
Les 45 Tours de France. Disque jeu Philips. Après, alors, il y a une règle du jeu. Après avoir tiré au sort... il a quand même été vendu 100 francs, vous avez vu ? Après avoir tiré au sort l'ordre de départ des joueurs, le premier à partir place son cycliste sur l'écusson Philips départ. Coup de pistolet, il lance le dé et pose son cycliste... Alors, je ne sais pas si le disque redit la même chose ou pas.
Si le disque est musical. Ça, c'est le genre de choses que vous cherchez en brocante.
Oui, mais vous voyez, 100 euros ou 100 francs, je suis content d'être venu vous voir.
C'était peut-être des anciens francs.
Oui, c'est ça. Non, là, on voit bien que c'est... Il y a eu une époque où c'est vrai qu'il y a eu une production de dingue, de je sais pas comment on peut appeler ça, des disques parallèles, des trucs...
des objets.
Ça, ouais. Moi, j'ai un 33 tours avec comment réussir son Rubik's Cube. Mais alors, du coup, toute la face A, c'est la face verte, jaune et bleu, je crois. Et après, la face B, c'est les autres couleurs. Et puis, j'avais la visite de Giscard au Gabon, aussi, qui est très bonne.
Ah, oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de musique. Hein.
Politique.
Oui. Ouais.
Notamment la campagne de Paris pour le... De Chirac, pardon, la campagne de Chirac pour la mairie de Paris. Avec Les Amoureux de Paris sont unis, avec Chirac pour Paris. Et les couplets sont hyper... vraiment très 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 bucolique pour que la Seine ne charrie plus de poissons morts. Les amoureux de Paris sont unis pour Jacques Chirac. Enfin voilà. Et donc oui, il y a comme ça une époque où on faisait vraiment pas mal de disques. Je sais pas, l'économie était plus florissante. Et ça, c'est sûr que c'est un truc qui a totalement disparu. Tous ces trucs un peu étranges. J'en ai un avec un mec qui donne des cours pour en faire parler son perroquet. Enfin,
c'est comme ça. Oui, c'est les ancêtres des vidéos.
Des tutos.
Des tutos sur YouTube.
Allez, allons-y. Ah, nous allons écouter les 45 Tours de France, un disque jeu Philips qui est en rapport avec le Tour de France. Donc.
Dans quelques instants, le signal du départ de la grande randonnée cycliste va être donné. Tous les champions sont présents et se rangent dans leur ordre de départ. Êtes-vous prêts? Dès le coup de pistolet, le premier joueur lancera le dé de couleur, ira poser son cycliste sur la case indiquée et passera immédiatement le dé au joueur suivant. Attention! Les coureurs viennent de partir.
C'est un disque jeu conçu par Geneviève Nérenval et qui a été réalisé par André Tavernier. Ah, c'est une satisfaction parce que souvent quand même quand on achète ce genre de truc, on peut être déçu parce qu'il y a souvent que de l'instrumental ou... Et là, ça tient ses promesses.
On a fait le Tour de France avec ce 45 tours qui est un jeu.
Ah, dites donc, du Poiret Serreau, mais de Monsieur Petit Lagrelèche, ça vaut la peine.
Et Jean Poiret qui est complètement méconnaissable sur ses photos. Hein.
Ah oui, oui.
Brun.
Tout genou. Oui, c'est bien ça. En direct de la tête de l'art.
La tête de l'art, évidemment, ART.
Gymnastique du corps et de l'esprit par le professeur Albert Petit-Lagrelèche.
Je ne vous présente pas le professeur Albert Petit-Lagrelèche, dont vous avez sûrement pu apprécier les ouvrages en leur temps, dont vous avez pu apprécier également les entretiens télévisés. Non, je voudrais vous parler ce soir surtout de sa dernière œuvre, qui a pour titre Gymnastique du corps et de l'esprit,
oui.
Et qui est vraiment, je crois ne pas m'avancer trop, en disant une bénédiction dans cette époque de nerfs, dans cette époque de névrose que nous traversons. C'est vraiment un livre. Pour moi, c'est un livre essentiel. Enfin,
c'est un livre.
En tout cas, c'est un recueil de préceptes pour bien vivre la vie moderne dans la détente et dans la joie.
Et surtout dans la joie.
Surtout dans la joie. Alors, nous en arrivons à ce bouquin qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire Gymnastique du corps et de l'esprit, qui lui est divisé en deux parties. Oui. Une partie où vous traitez des affections mentales et une autre partie où vous traitez des affections physiques, tout simplement. Et alors, au premier rang des névroses, n'est-ce pas, qui peuvent être provoquées dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, vous situez surtout les rapports de l'homme de la ville, de l'homme des cités, avec le personnel domestique.
Oui, c'est un gros problème et très actuel.
Vous dites que c'est ce qui traumatise au maximum.
Malheureusement. Mais enfin, je vous donne aussi
des remèdes,
n'est-ce pas? Et c'est une question de concession, en fait.
Mutuelle. Vous parlez d'une seconde névrose qui est provoquée par la cherté de la vie, par la montée du biftec. Vous parlez d'une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de l'homme moderne.
Absolument,
très bien.
Absolument.
Et vous dites, vous, paradoxalement, d'ailleurs, d'une manière téméraire, vous dites, mais la vie n'est pas chère.
Si, la vie est chère.
Comment expliquez-vous ça?
Si, la vie est chère. La vie est chère quand on ne cherche pas, comprenez-vous?
Oui.
Ça, c'est très vrai. Par exemple, si on attend que ça vous tombe tout rôti dans le bec, alors bon, c'est très cher.
Ça, c'est
seulement, vous avez la radio, vous avez la presse, vous avez la télévision qui vous marche la besogne.
Oui,
vous
les émissions comme Telex consommateur, c'est ça. Oui, c'est ça.
On vous dit où les denrées sont meilleures marchées,
oui,
vous comprenez?
Oui.
Alors il faut en profiter.
Mais absolument, mais d'ailleurs vous savez que vous prêchez un converti, enfin vous prêchez deux convertis,
oui.
ma femme et moi, parce que vraiment, alors c'est une mordue, encore plus que moi, de vos écrits. Alors. Ouais, ouais. Et elle a mis ça en pratique depuis très très longtemps. Maintenant, elle fait des tournées. Elle va faire ses courses, elle part en tournée.
Elle s'en va ?
Elle est partie il y a 15 jours, là.
Bien sûr.
Et elle fait ses courses. Elle est partie faire ses courses il y a 15 jours. Elle prend ses yaourts en Bulgarie, par exemple. Directement ses yaourts en Bulgarie. Elle prend ses saucisses à Strasbourg. Aujourd'hui, elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit être ? Elle doit être à Brest pour acheter des pommes de terre. Puis elle va revenir par Dieppe pour me prendre quelques sardines. Parce que...
Ah oui. Bah comme ça, vous êtes content ?
Je suis content.
C'est quand même un truc, hein, Poiré Serrault. C'est, ça ressemble à rien, quoi. Ça peut durer à l'infini. Et une sorte de logique parfaite. Un truc qui n'a aucune logique, évidemment. Mais...
Et notamment les interjections de Serrault, qui sont des aigus incroyables. On n'entend plus, ça.
Il y a ça, et puis surtout ouais, ce rebond avec Poiré qui très, très Edouard Baird, quoi, Poiré, quand même. Il y a un truc vraiment, vraiment comme ça, d'humour à froid qui est super. La sardine fait parler d'elle.
Et vous achetez aussi ce genre de disque, Vincent Delerme ?
Poiré Serrault, c'est assez dur parce qu'il y a peu de choses. En fait, on tombe toujours un peu sur les mêmes sketchs. Je sais pas pourquoi. Mais oui, j'en ai acheté beaucoup.
Autre disque de François de Roubaix. Ça vous tenait à le passer ?
Dernier domicile connu, bah oui, parce que c'est un peu son tube. Parce que ça a été réadapté, repris par Robbie Williams et tout ça. Donc, et puis c'est très, très, très typique aussi de l'énergie de Roubaix, c'est-à-dire vraiment des musiques qui contiennent énormément, je sais pas en quelle année c'est ce film, mais vraiment mentalement qui contiennent beaucoup les années 70. Quoi. Il y a une sorte de lyrisme, de trucs, t'écoutes ça, t'as vraiment l'impression que t'es un peu plus en vie qu'en écoutant le disque d'avant.
Dernier domicile connu, François de Roubaix. C'est intéressant, Vincent Delerme, parce que la première partie, avec cet ostinato, ta-la-ta-ta-tam, on vous verrait très bien chanter là-dessus. Par contre, la seconde, pas du tout. Et on entend un accordéon. Je me demandais si vous aviez jamais eu envie d'utiliser cet instrument.
En fait, non, mais ça tient aux années 90. En fait, la façon qu'il avait été utilisé, c'est un peu, moi, des années dans lesquelles je me suis un peu fabriqué comme... dans ce que j'avais envie de faire et tout ça, et il y avait une grosse opposition, il y avait une scène un peu néo-réaliste française qui existait beaucoup, Et c'était vraiment pas du tout mon truc, quoi, tout simplement. Et j'associais beaucoup l'accordéon à ça. Mais après, il y a des, je pense, quelqu'un comme Mano Solo, que j'ai quand même beaucoup aimé à une époque et tout, doit avoir de l'accordéon aussi. Mais c'est vrai que chez Deroubet, c'est très particulier. C'est une note à la fois, et souvent le son accordéon avec plusieurs notes, c'est ça qui crée un peu l'impression plus, plus un peu, voilà, néo-réaliste ou musette ou guinguette. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que sur le B du morceau, c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup fait écouter pendant qu'on faisait l'album, et notamment pour la chanson qui s'appelle Danser sur la table. On est vraiment dans une énergie qui est très, très voisine de ça.
Alors, suite de la visite dans les archives.
Un phonobridge, ça peut être pas mal. Mais on n'est pas en retard et tout ça.
Allez-y.
On a fait beaucoup de.
On prend le temps.
Je regarde tout. Le Go-Between, alors c'est une musique de Michel Legrand que j'adore. Alors, maintenant, qui est un peu associé pour les gens à Faites Entrer l'Accusé. Parce que ça a été décliné en thème de l'émission Faites Entrer l'Accusé. Qui peut rappeler des bons souvenirs aussi. moi, je sais que j'aime bien, par exemple, l'affaire d'Harry Bootbull. C'est vrai. Alors, on peut l'écouter.
Ouais.
Comme ça, les gens vont avoir l'impression d'être chez eux et d'avoir peur. Mais c'est un très. Alors, vous savez que c'est une BO qui ne. Tout le score est super, mais il n'existe nulle part en fait. Il n'y a que le 45 tours et il n'y a pas de. On n'a pas d'avantage. J'en avais parlé avec Stéphane Lerouge qui m'avait dit non, là tu ne trouveras pas. Et quand Stéphane Lerouge vous dit ça, vous savez que c'est un petit peu foutu.
Go Between de Michel Legrand pour Le Messager.
C'est vraiment c'est un film qui est très étrange, Le Messager de Louzet. Et moi, c'est un film que j'adore, mais qui appartient complètement à la catégorie de ces choses où on ne sait pas si c'est très agréable à voir, où ça crée une sorte de petit malaise aussi. Et c'est une histoire qui est très forte. Et la musique est un peu comme ça aussi. Elle crée c'est vraiment une sensation qui m'intéresse en général, et de plus en plus aussi des fois d'essayer de rendre compte de choses qui sont pas très précises. C'est-à-dire, y a évidemment que certains de nos sentiments qui sont clairs et de nos idées qui sont bien tranchées, mais aussi beaucoup de zones qu'on a en nous, qu'on aurait du mal un peu à mettre en mots, et on sait juste que certaines choses nous font de l'effet, mais on pourrait pas complètement dire si c'est un effet agréable ou désagréable ou positif ou joyeux ou pas. Et ça, c'est vraiment typiquement un film qui me met dans cet état-là. Ouais. Alors, oulala. Alors ça, je sais pas que mes enfants aiment beaucoup cette chanson. Mais c'est donc la musique de l'Homme Orchestre chantée par Louis de Funès, que j'adore. Louis de Funès. Mais alors en chanson, ça ne va pas complètement. On peut écouter. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu.
Je
un peu raide.
En
fait, dans
je
le chant.
En fait. Ah.
Donc, vous allez voir, le chant.
Il est moins souple dans le chant que.
Que dans sa danse de Rabbi Jacob.
D'accord. Voilà.
Quand tu fais la 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 la.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie.
Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister.
Olivier de Funès.
je voyais en elle la beauté.
Attention au retour de Louis de Funès.
Quand tu fais la la la, la la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave la vie.
Et moi dans leur cœur, je retrouvais la vérité. Comment en plein bonheur me raisonner.
De Roubaix reprend la main là.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Les poupons, les
la fin,
vivons,
la fin, voilà.
Les persos, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos.
Voilà. Les bobos. Non, je crois que c'est les popos, si je peux me permettre. Les pipis, les biberons, les popos. Vous n'avez pas du tout suivi l'intrigue de la chanson.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Je fais une aparté, puisqu'on parle de cinéma. Dans cet album, à présent, Vincent Delerme, il y a un écho direct, hein, puisqu'on entend des extraits de Chroniques d'un été, de Jean Rouch et Edgar Morin, tourné en 1960 avec la voix de Marceline Loridan-Evans qui répète:
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je lui ai dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, monsieur, êtes-vous heureux? Je lui ai dit, n'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Ce n'est pas ce que vous appelez heureuse.
Ça dépend.
Ça dépend de quoi?
Ça dépend sur quoi?
Est-ce que vous êtes heureux?
Non.
Pas heureux. Ah.
J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu.
Ce qui est curieux, Vincent Delerme, dans cet exercice qu'on entend, donc des extraits de films que vous avez repris, que vous accolez, que vous mixez avec de la musique, c'est presque un exercice de radio, hein. C'est ce qu'on fait tout le temps, la radio, on mélange des extraits avec de la musique. Et moi, je retrouve ça dans beaucoup de disques ces derniers temps. Benjamin Biolay l'a fait deux fois de suite dans son album Trenet, avec la voix de Charles Trenet. Il l'a refait dans Palermo Hollywood, où on entend la voix de Borges, qu'il intègre à sa propre voix. Les Américains font ça. Enfin, Kendrick Lamar, récemment, le faisait aussi avec Tupac Shakur, où ils discutent. On entend une interview de Tupac avec la musique de Kendrick Lamar, et lui aussi lui parle et lui répond derrière. Mais comme si les voix étaient des instruments musicaux, des sons comme les sons d'un piano. C'est comme ça que vous le voyez aussi, Vincent Delerme?
C'est aussi que, parmi, c'est aussi sur Alex Baupin qui met la voix de Piala sur son dernier disque. C'est souvent en l'occurrence des timbres qui dégagent quelque chose de fort et qui, je sais pas comment dire, qui incarnent aussi quelque chose à votre place, tout simplement. En l'occurrence, ça prend une sorte de relais. C'est comme si ça faisait faire une pause dans l'album et en même temps qui est pas du tout une pause parce que le sens continue d'être là, incarné par quelqu'un d'autre. Je sais que, à l'envers, moi, ça m'a, sur mon premier disque, il y avait donc la voix de Trintignant, sur le Deauville sans Trintignant. Et c'est une voix, j'ai vraiment construit la chanson pour pouvoir utiliser cette voix-là. J'étais fasciné par le grain du son, le timbre de Trintignant qui est super, mais même on entend un peu le bruit des essuie-glaces. Il y a quelque chose de très... Et toujours, ça m'a plu, ce truc-là. J'ai l'impression que ça a commencé un peu dans les... Il y avait sûrement eu ça depuis très longtemps, mais dans les années 90, il y a eu quand même cette culture du sample, de mettre des fois... Ça, on a une chanson d'un chanteur qui s'appelait Jean Barthes, qui avait samplé un extrait des Deux Anglaises et le Continent de Truffaut, qui repartait en boucle et qui disait « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas ». Et ça me faisait pas mal d'effet à l'époque. Oh là, le double blanc de... Ça, c'est pas mal.
L'album blanc des Beatles.
L'exemplaire de la discothèque est donc le 038... 63-22. Là, il a été un peu... un peu dommage, il y a des autocollants dessus. Est-ce qu'il reste le poster? Est-ce que c'est un album? Oui. Ah non, il était volé. Voilà, ça, c'était... Bon, voilà, je sais pas si on va... On en a parlé des Beatles un peu. Du coup, peut-être tu veux illustrer ou...
Oui, mais ça, c'était un disque important, ce double album blanc des Beatles, très singulier dans leur discographie.
Ouais, ouais. Ah, très aussi l'objet d'un. Bon, McCartney dit toujours que le double blanc, si, parce qu'il y a un gros débat de se dire est-ce qu'il n'y a pas trop de chansons sur le double blanc. C'est un moment où les Beatles commencent à enregistrer un peu chacun de leur côté. Yoko Ono est assise dans un coin, ça met un peu le bazar. Et du coup, il y a cette idée que oui, il y a certaines chansons qui n'étaient peut-être pas complètement utiles et que ça aurait fait un disque simple, absolu totalement. Mais McCartney répond toujours. Bah oui, mais qu'en même temps, ce serait plus le double blanc, quoi. Donc, voilà, il n'y a rien à dire derrière ça. Après, il y a des trucs. Après, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des trucs très variés. Il y a des trucs un peu rudes, même des moments où on sent que McCartney veut faire un peu son méchant, quoi. Et...
Oui, mais Helter Skelter, on voilà, est content de l'entendre quand même.
C'est ça. C'est toujours. Ah bah moi, j'assume, je suis très fleur bleue. Hein. J'aime bien les chansons douces des Beatles, pardon. D'accord. Je suis pas très rock'n'roll.
C'est pas forcément Obladi Oblada.
Non,
plutôt,
mais
Wild Man Guitar, Gently Whip.
Bah oui, mais ça c'est George Harrison. Mais oui, non, mais Martha My Dear, tout ça, j'adore à Good Night. Enfin, Good Night, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas cette chanson. Elle est très bien. Il paraît que la maquette, parce qu'elle est chantée par Ringo, et la maquette était chantée par Lennon, et il paraît que c'était très très émouvant, mais nous ne l'avons pas.
Voilà.
Même à la discothèque. Oula. Ça c'est le disque, l'album anglais un peu mythique de Françoise Hardy, et je veux bien qu'on écoute la 4, Garden of Jane Delaunay. Il faut l'écouter fort, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est assez prenant. Et c'est typiquement les chansons que quand j'étais étudiant, je me disais c'est ça qu'il faut faire, il y a un truc qui donne envie de se suicider à tout le monde, et ça va être super. Attention, ça va vous émouvoir. Je sens sa fascination un peu pour Nick Drake aussi. Il y a un petit break qui est pas terrible, enfin mais après la reprise avec les cordes est super. C'était enregistrement Bernard Estardi, ça, ingénieur du son, et René Hamelin des studios Ferber. Là, c'est à Davout, mais c'est lui qui a créé les studios Ferber. Et, voilà. C'est vraiment tradition française de prise de son pour un album anglais, mais ça sonne super bien. Et puis, c'est vrai que quand elle s'y met, Françoise Hardy, ça fait mal un peu quand même. Il y a un truc, c'est tellement, tellement naturel, quoi, ce chant tellement caressant. Elle a fait pas de, elle faisait pas de scène aussi pour ça, parce qu'elle a vraiment un chant qui est très très fait pour le studio, et Très dans la proximité comme ça. Alors, du poire à sirop, dites donc, il y en avait encore plein derrière. J'en ai jamais vu autant. Ah bah regardez, il était là, David McNeil.
Voilà David McNeil.
Ah oui, ça c'est bien. Voilà, là. Je regarde tout. Hein, Ah oui, dites donc. Ah oui, ça c'est très beau ça. Bon, c'est très proche de Deroubaix. Hein. C'est trop proche, ouais. Trop proche de Deroubaix, je pense. Ah oui, celui-là j'aime bien. Ouais. Mais ça, c'est peut-être RCA déjà, ça, non? Bah, David McNeil, c'est un peu. Il y a comme ça dans la chanson des éminences obscures, mais qui comptent pour les gens qui aiment la chanson, en fait, et puis qui n'ont pas tellement trouvé leur public, comme on dit. Mais il y a vraiment un truc dans son écriture qui me fait toujours de l'effet. Il y a beaucoup de chansons très. Je sais pas. C'est le gars qui est toujours pas loin, qui était très pote avec Renaud, avec Souchon, avec. Tout le monde respecte beaucoup, et en même temps. Les gens connaissent en général sa chanson Hollywood qu'il avait écrite pour Yves Montand. Par contre, ça peut être pas mal pour terminer la grande dame de la chanson française. Une chanson dans laquelle il dit qu'il sera jamais la grande dame de la chanson française. Alors, on peut mettre aussi Simon Bolivar, t'embête pas. C'est vraiment ça, c'est une chanson qui a un climat que j'adore. Pardon, on met le souk là dans les. C'est bon, ça c'est là, je vais le remettre.
C'est bon.
Tiens, Simon Bolivar. Dimanche, les enfants portaient à la patinoire des pattes d'éléphant et des vestes en velours noir. Je rêvais devant les magasins dans les gilets de mes cousins. J'avais 10 ans, rue Simon Bolivar.
Sortez dessus, Vincent Delerme. C'est fou parce que on pense forcément à Je suis le garçon un petit peu.
Ah oui. Ah, ce sont c'est une école de chansons comme ça, très proche, ouais, de leur vie. Après, il y a un truc aussi. En plus, à la fin de la chanson, je sais plus, il dit à tel moment, mon père a voulu que j'aille dans un collège à Versailles. Mais papa, c'était déjà trop tard. J'avais chapardé ma guitare et il dit, je crois que j'avais lu. L'attrape-cœur ou un truc comme ça. Et c'est assez fort. Et sur ce disque-là, il y a une autre chanson qui s'appelle Papa jouait du rock'n'roll. Et c'est le fils de Chagall, David McNeil. Donc il y a ce truc, cette résonance comme ça qui est très forte. Mais aussi Simon Bolivar, ce genre de climat, j'étais très fasciné par ça. Comme j'ai grandi à la campagne en fait. Et toutes les chansons qui parlaient avec un nom de rue de Paris. On écoutait Françoise Hardy tout à l'heure. Il y avait. Cette chanson qui s'appelle Brouillard dans la rue Corvisart, tout ça me fascinait beaucoup. Quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était qu'il fallait vivre à Paris, que ça allait être plus facile d'écrire des chansons en étant là-bas. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça.
Oui, et puis, toute une topographie qui pourrait être celle de Modiano aussi, qui topographie précisément tous les lieux qu'il décrit.
Absolument, avec en même temps cette idée de. Oui, ouais, d'être dans une sorte de flou d'un quartier, j'aime bien ça encore beaucoup. Franchement, dans Paris, je pense que si on faisait une recherche ici, on pourrait trouver une chanson par minimum par nom de rue. Donc, il y a vraiment moyen, quand on aime bien la chanson, de faire un trajet rue Simon Bolivar, de chanter ça, de descendre la rue de Belleville ensuite, qui croise avec Bolivar et de se chanter « Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi ». Enfin, tout est. Et après, on arrive métro Ménilmontant, et alors là, c'est la fête.
Pour terminer, je voulais vous proposer Bah vous choisissez ce que vous voulez là dans, dans la pile qui est là, Vincent Delerme. Oui.
J'ai cru que c'était un album de Christophe en fait. Sur le...
Non, oui,
C'est Johnny, mais à moustache.
C'est une vie de Johnny.
Ah, bah c'est pas mal aussi, Isn't She Lovely, ça peut être bien. Non, Isn't She Lovely, c'est bien.
Pourquoi ce choix, Mathieu Conquet ?
Alors, Songs in the Key of Life, parce qu'il est sorti il y a 40 ans tout juste.
Ah, bah,
voilà.
C'est bien, au début, l'attaque du morceau est incroyable.
La production de l'album avait pris du retard parce que Stevie Wonder tenait à ce que ce soit de véritables cris d'enfant qui aient été captés exactement à la naissance, puisque il venait, je crois que sa fille Aïcha venait de naître. Il n'avait pas pensé à prendre un micro à la clinique.
Ça va vous faire du bien pour finir l'émission parce que je vous ai quand même infligé des chansons qui n'étaient pas toujours très up tempo. Et donc c'est pas mal.
Merci Vincent Delerme.
Bah merci à vous, c'est terrible. Faudrait faire que des émissions comme ça.
Vous revenez quand vous voulez.
Sympa. Avec plaisir.
Et on se quitte avec Stevie Wonder, dernier choix plus up-tempo de Vincent Delerme en visite dans les archives de Radio France. Vous pourrez retrouver Vincent Delerme sur scène. Il donnera des concerts un peu partout en France à partir du 10 novembre et jusqu'en mai 2017. Je crois que j'ai vu plus de 41 dates prévues, donc il y en a sans doute une pas loin de chez vous. Les livres de textes et de photographies sont édités quant à eux chez Actes Sud, tandis que le disque, à présent, est édité chez Tôt ou Tard.
Et Continent Musique, c'est une émission de Mathieu Conquet, réalisée par Olivier Guérin, avec à la technique Marc Garven. Un grand merci à Michael Simon, à la discothèque de Radio France, et Sandra Escamès de Lina. Ça continue en musique à la page de l'émission sur franceculture.fr, avec toutes les dates de concert, les références musicales, mais aussi surtout le podcast et la réécoute.
Je vous retrouve pour ma part dès lundi dans les matins de France Culture, mais il est bientôt 22h. Dans un instant, François Angelier et Mauvais Genre. Très bonne soirée à tous.